Tana, d'une autrice et illustratrice féministe que j'ai rencontrée la semaine dernière qui se nomme Tess Kinski. Et Tana a eu la brillante idée de la faire venir pour une interview. Et c'est un plaisir. Alors Tess, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ?
Oui, je suis grenobloise, j'ai 32 ans et ça fait 3 ans à peu près que je fais de la bande dessinée.
Ok, alors moi je t'ai connue grâce à ton Instagram et j'ai connu du coup ton œuvre Super Cyprine dont on va parler aujourd'hui. Et les trois mots qui attirent notre attention quand on lit ta biographie, c'est autrice, illustratrice, féministe.
Oui, féministe.
Donc, et du coup, le féminisme, ça a une part très importante dans ton travail.
Oui, et dans ma vie en fait. Donc comme je sais pas, je parle de ça naturellement en fait dans mes œuvres, c'est pas calculé quoi.
Est-ce que tu pourrais nous définir ton féminisme à toi pour qu'on aborde
non.
l'œuvre? Non, ok, je comprends.
C'est trop casse.
Ouais, je comprends.
Ça va être périlleux comme exercice.
T'inquiète pas, on y viendra progressivement ouais. après. En tout cas, la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est ta BD, Super Cyprine. Oui. Alors, Super Cyprine, ça parle d'un personnage féminin, Cyprine, qui va quitter Dijon pour Paris. Oui. Et elle va découvrir son corps, on va dire son art finalement, une certaine émancipation aussi grâce à l'art. Parce qu'elle va faire partie d'un cabaret complètement déjanté.
Oui.
Où elle va rencontrer des danseuses et danseurs issus de la communauté queer, on peut dire ça.
Oui, exact.
Et Cyprine, il se trouve que c'est pas une femme tout à fait comme les autres, même si aucune femme ne ressemble à une autre. Cyprine, elle porte le nom de ce qu'on appelle une sécrétion vaginale. Voilà, alors on a plutôt tendance à connaître celle des hommes, mais très peu celle des femmes. Et j'en ai parlé autour de moi, qu'est-ce que c'est qu'une cyprine? Et il y a très peu de femmes qui ont su me répondre, hein, malheureusement. Et du coup, cyprine, voilà, elle a une sécrétion vaginale qui est corrosive, qui brûle ses partenaires. Et ça, ça la perturbe énormément, ce qu'on peut comprendre.
Oui.
Toute l'œuvre va nous emmener en fait vers l'acceptation de cette particularité et comment elle va progressivement s'émanciper du regard des autres et des remarques et même des agressions d'autrui. Alors moi je veux bien pitcher Super Cyprine un peu, mais si tu as des choses à rajouter, vas-y.
Non, c'est bien.
Non, c'est bien.
Non, tu résumes super bien, franchement. Ça
t'as validé
oh,
je suis contente,
grave.
Merci. Alors, la première chose que je voulais te demander, c'est pourquoi ça te semblait nécessaire de créer une histoire en lien avec le féminisme?
Je ne sais pas si c'était ce que je voulais faire directement et consciemment, mais je savais que ce que je voulais exprimer, c'était plus la colère, en fait, envers les hommes. Et notamment à cause de l'expérience d'une femme qui grandit dans ce monde, en fait. Donc, le féminisme, c'est une défense à ce monde, on va dire. Et j'ai pris comme point d'entrée le harcèlement de rue, mais c'était pas vraiment conscient, quoi. C'est juste que, je raconte toujours cette histoire, mais un jour, j'ai eu un harcèlement de rue banal, quoi. Je me suis fait insulter dans la rue. Et comme je ne sais pas du tout répondre à ça, j'ai imaginé en fait une femme qui saurait répondre et qui saurait se défendre en fait. Parce que j'ai grandi avec l'idée que les femmes étaient fragiles, faibles, qu'on ne pouvait pas répondre physiquement à la violence des hommes, que ça ne servait à rien, c'était perdu d'avance quoi. Et je pense que ce qui a conditionné ça, c'est tous les films qu'on regarde, les séries qu'on regarde, les livres qu'on lit, enfin tout. Toute la culture, en fait, nous baigne dans cette image des femmes qui sont faibles et douces et mignonnes, et dociles, en fait. Et moi, j'ai jamais été très docile. Par contre, j'étais faible. Physiquement, j'étais pas vraiment costaude. Et du coup, c'est sorti comme ça à la suite d'un harcèlement où je rentrais chez moi. J'avais trop mal réagi. Enfin, j'avais eu peur, en fait. Et du coup, j'ai pesté dans ma tête, quoi. Mmh. Et c'est sorti d'un... J'ai vraiment... Le départ, c'était ça. Donc, voilà.
Ok. D'ailleurs, la colère, c'est un sentiment qu'on retrouve à travers le personnage, à travers le personnage de Cyprine, mais on va y venir un peu après.
Okay.
En tout cas, Cyprine, elle porte ce nom particulier. Hein. Une fois qu'on connaît la signification de ce nom, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, je me suis demandé si ce personnage, c'était pas une métaphore d'un tabou social, justement.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. En fait, la métaphore du tabou, c'est plus au départ, j'ai voulu vraiment la dépeindre comme une jeune femme qui découvre la sexualité de manière vraiment détendue à l'encontre de tout ce qu'on a comme représentation habituelle. Ouais, elle est avec des partenaires qui la respectent, c'est hyper égalitaire. D'ailleurs, elle cherche que son propre plaisir. En fait, c'est un peu l'inversion des garçons, quoi. Et du coup... c'est un peu une métaphore au départ. Enfin, le fait que sa cyprine soit corrosive, c'était un peu comme si elle était punie. C'est comme ça que je l'ai imaginé, d'avoir une sexualité vraiment cool, quoi. Enfin, joyeuse, libre et je sais pas, respectueuse, en fait. Voilà. Et du coup, et en fait, c'est la métaphore de la société dans laquelle on vit, quoi. Une femme qui kiffe ça avec. Et c'est pas bien.
Je suis contente de te l'entendre dire parce que je sentais qu'il y avait une symbolique en fait autour de sa cyprine, que c'était pas gratuit, que c'était pas biologique, que c'était là pour raconter quelque chose. Oui. Et effectivement, maintenant que tu le dis, c'est évident en fait que ça vient raconter la culpabilité qu'on éprouve dès lors qu'on est une femme et qu'on cherche à jouir de son corps, de sa sexualité, parce que derrière on se prend des rafales. De remarques, d'insultes, de stigmatisation. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et comment ça t'est venu, l'idée d'une cyprine corrosive?
Je sais pas.
Il faut aller la trouver, celle-là.
Je sais que ça vient d'un truc où je me disais, ça ferait quoi? Aussi, je me suis posé mille questions au moment de faire l'histoire. C'était aussi de se dire, c'est quoi une femme qui n'aurait pas peur de se faire violer? Bon, là, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'était quand même ça qui sous-tendait tout, parce que le harcèlement de rue, en fait, pourquoi on ne réagit pas aussi? C'est pas que parce qu'on... Enfin, on a peur de ça, en vrai. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est commun à beaucoup de femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes ont peur de ça, mais c'est quand même vraiment présent, ça, quoi, cette peur que les hommes n'ont pas, en fait, enfin, moins... c'est moins courant, on va dire. Et du coup, du coup, c'est... Ouais, c'est comme ça. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, désolée.
Oui, en fait, c'est cette tension qui...
Voilà.
Qui t'a amené vers...
Oui, pardon. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ce serait une femme qui n'a pas peur, en fait que... Et du coup, je sais pas, j'ai pensé, ce serait une fille qui peut... blesser des hommes, en fait, comment elle ferait? Et donc, je me suis dit, la cyprine corrosive. Mais c'était inconscient, quoi. Je me suis juste posé consciemment la question de qu'est-ce que serait une femme qui n'aurait pas peur de se faire violer, quoi. Et après, c'était ça, la réponse. Mais franchement, je sais pas d'où ça vient. Il y a même des gens qui croient que c'est une vraie condition, qu'il y a des femmes qui ont la cyprine corrosive, mais ce n'est pas vrai.
Oui,
Encore, moi, je suis là. Hein. J'ai lu le livre avec
Sana, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais c'est vrai. Je lui ai dit, c'est une métaphore, c'est pas vrai. Mais en tout cas, le personnage de Cyprine, il véhicule beaucoup de colère.
Ouais.
Beaucoup d'incompréhension, moi ça m'a marqué directement. Je me suis dit, elle est vénère.
Ouais.
Et elle est usée aussi par ses parents qui ne l'écoutent pas, qui lui tendent un schéma éducatif, une scolarité à suivre.
Ouais.
Et elle est tendue par ses mecs, en fait. C'est constant, hein. En fait, elle marche, il y a beaucoup de lieux dans tes dessins de rue qu'on voit, et c'est un personnage qui est en mouvement. Dans l'espace public. Et à chaque fois qu'elle est en mouvement dans cet espace public, elle va rencontrer des mecs qui vont lui dire, des insultes, et qui l'invitent à avoir... Enfin, qui ne l'invitent pas, mais qui la forcent, on va dire, à avoir une relation sexuelle avec eux, quoi. Et ça la tend. Et au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il y a une espèce de basculement. Et ce basculement, il se situe au milieu de la BD. Et moi, c'est un basculement qui m'a posé énormément de questions, du coup.
Vas-y, je t'écoute.
Du coup, Cyprine, elle se fait, pour recontextualiser, elle est au bar. Enfin, elle est dans le cabaret, elle tient le bar. Et elle va servir des hommes. Et il y a un journaliste qui va l'insulter, etc., qui va la rabaisser. Et ça va la hanter. Mais il va même plus que la rabaisser, il va y avoir même une incitation au viol. Et ça va la hanter. Et ses amis lui disent, mais passe à autre chose, tu vois, t'as autre chose à faire. Et elle, non, elle peut pas, ça la nourrit, quoi. Et là, elle se dit, ma cyprine corrosive, elle va servir à quelque chose.
Ouais.
Du coup, je vais l'attendre, je veux trouver où il habite, et je vais m'en prendre à lui. Et elle a même un déguisement de Super Cyprine, hein, ça fait référence, elle se déguise un peu en Superwoman. Et elle va devant chez lui, elle se met sur le muret, comme ça, et elle lui saute dessus. Et moi, toute cette scène, je l'ai trouvée à la fois héroïque, soulagante, et en même temps, elle m'a posé énormément de questions.
Ouais.
Parce que je me suis dit, la façon dont elle tombe sur lui, c'est une violence, en fait.
Ah oui, c'est très violent.
Il y a un rapport de domination, d'agression qui s'inverse, parce qu'on peut même parler d'agression sexuelle à ce moment-là, parce qu'elle tombe sur sa bouche à lui. Et du coup, je me suis dit, d'accord, donc en fait, il était nécessaire à ce moment-là de rentrer dans une inversion des dominations pour potentiellement faire comprendre un public masculin ce que c'est aussi de le vivre, ou quelle était ton attention à travers ce basculement.
Ouais, alors déjà là, c'est technique, et je crois qu'il y a quand même un truc dans le processus de création où c'est pas conscient tout ce que tu fais, et tu sais pas trop pourquoi tu le fais, mais t'as besoin de le faire. Mais par contre, j'ai désolée pour tous les hommes qui nous écoutent, mais j'ai pas pensé aux hommes du tout quand j'ai fait cette histoire. J'ai vraiment voulu que ce soit cathartique pour des femmes, et justement qu'elles voient des femmes qui sont, qui vont trop loin, parce que même ça, ça questionne. Ah, c'est pas bien de dire ça.
Non, si.
Non, c'est bien de dire ça.
C'est le ronronnement de Zana qui m'a
fait. Les hommes, moi, je suis là. Hein, faut pas nous oublier aussi. Voilà, tu vois.
Mais là, ça, vas-y.
Mais bon, du coup, j'ai voulu cette scène parce que il fallait aussi que Cyprien aille trop loin et qu'elle se rendre compte, parce que je suis quand même pas pour la violence. Je trouve que dans l'imaginaire, c'est important qu'on rééquilibre la violence, que des femmes se défendent, etc. Mais dans la réalité, je suis pas pour, quoi. Je pense pas qu'il faille que les femmes se battent contre les hommes pour que ça se rééquilibre, même s'il y a des théories qui disent... Mais en tout cas, j'avais envie qu'elle aille trop loin pour justement elle-même se remettre en question et voir ce que ça a fait d'être à la place d'un agresseur aussi, en fait. C'était... Parce qu'elle n'a pas juste fait une agression et après elle est trop contente et c'est cool et après elle va faire n'importe quoi. Ça l'a fait basculer aussi dans la narration. Donc c'était, je sais pas, un truc utile dans mon histoire, quoi. Il fallait qu'elle aille trop loin à ce moment-là. Et c'est aussi le truc de la colère, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment où on est tellement en colère, enfin, dans certaines situations, et cette colère, elle n'est jamais exprimée en tant que femme. Enfin, elle est pas trop exprimé, quoi. Du coup, là, j'avais besoin de montrer une fille qui pète vraiment un câble. C'était important pour moi, mais je sais pas trop pourquoi, sinon j'ai fait ça, quoi. J'avais vraiment besoin d'exprimer une colère qui était vraiment très, très, très agressive.
En tout cas, à ce moment-là, on se rend compte que la colère et la fatigue de Cyprine, elles arrivent à un point d'acmé, en fait. Et il y a un véritable bouleversement des rapports, une inversion des agressions. Et du coup, ce que tu dis, c'est qu'à ce moment-là, dans la narration, il fallait un point d'acmé, c'était, c'était celui-ci.
Ouais.
Ok. Et du coup, moi, je me suis retrouvée un peu à travers Cyprine, pas à travers le moment de l'agression, mais à travers ce moment de colère, en fait, où on sent plus d'espace possible pour soi. Et toute l'œuvre, en fait, elle est axée sur ça, sur les renversements de situations, de rapports. Et d'ailleurs, Cyprine, elle évolue dans la capitale. Elle rencontre des hommes queer. Et du coup, des hommes queer, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est des personnes qui sont biologiquement des hommes.
Ouais.
Et on va dire, d'un point de vue social, ne se connotent pas, ne se genrent pas.
Non.
Et du coup, c'est drôle parce que Cyprine, quand elle est en présence d'hommes lambda, on va dire, dans l'espace public, ça représente un danger. Et quand elle est avec des hommes queer, finalement, on a l'impression qu'elle est sous cloche, qu'elle est un peu plus en sécurité, comme dans un nid. Est-ce que c'était une intention de dessiner un tableau comme ça, une fresque des masculinités possibles?
Oh là là, j'aimerais te dire que oui, mais... non, je voulais juste pas être trop binaire non plus et montrer que des hommes horribles et voir qu'il y avait d'autres possibilités, parce qu'il n'y a pas que les hommes queer qui sont cool. On va pas vous spoiler, mais voilà.
Il y a un homme qui est pas queer, mais qui est... Moi, je pensais, mais qui est
mais
pas queer.
C'est fait exprès au départ, on ne sait pas. Mais en fait, eux, c'est aussi... Alors, c'est à rien à voir vraiment, c'est que, comme je te l'avais dit, j'ai une période où j'allais énormément au cabaret à Paris, et en fait, ça m'a totalement fascinée, ces personnages, en fait, ces créatures, ils s'appellent eux-mêmes des créatures. Et je trouve que ça... ça bouleverse dans ce qu'on a comme représentation des hommes et des femmes, parce que eux, quand ils se travestissent, il y en a qui se travestissent pas, ils sont en costume, ils sont en créature, il y en a qui se travestissent en femme, quoi. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les codes, ça m'avait vraiment bouleversée et tout, et je trouvais ça trop beau et trop cool. Et en fait, j'avais trop envie d'être avec eux tout le temps, parce qu'ils avaient vraiment une... Il y avait une joie qui émanait d'eux qui était très très forte en fait, et j'avais envie que, juste par plaisir totalement égoïste, qu'elle évolue dans ce milieu-là, juste parce que j'avais envie. Enfin, moi j'aurais peut-être rêvé, genre être une petite souris dans ce cabaret, et en fait j'ai créé Cyprien. Enfin, je ne l'ai pas créé pour ça, mais en tout cas elle a eu ce décor-là. Et en plus, je me suis dit que c'était intéressant justement de montrer d'autres masculinités, de voir que tu n'es pas obligé d'être un harceleur, quoi.
Du coup, t'es autrice, illustratrice.
Oui.
Il me semble que Cyprine, tu l'as écrit pendant le confinement.
Ouais.
Comment toi ça se passe dans ton processus de création? Comment vient l'inspiration? Est-ce que tu établis, on va dire, une espèce de rigueur? Enfin, moi, je connais un petit peu la réponse, mais il faut le oui, citer oui, pour oui. les auditeurs et les auditrices.
Alors, l'idée est le. Le premier jet, c'était il y a longtemps, en fait. Enfin, ouais, ça a pris du temps avant d'être écrit et structuré. Donc, le premier jet, c'était voilà, un jour que j'étais à Paris, machin, j'ai écrit mon jet, quoi. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est là que ça a commencé à prendre, quoi. Je me suis dit, j'allais faire une BD, mais c'était pas forcément l'idée à la base. Enfin, j'avais pas d'idée, j'ai juste écrit ça par colère, quoi, par voilà, nécessité. Et après ouais, j'ai commencé à structurer mon histoire et j'ai écrit le scénario pendant le confinement. Et c'est ce que je te disais, c'était trop cool parce que j'ai pu avoir pas mal de gens qui m'ont relu pendant ce temps-là, parce que tout le monde... Enfin, il y avait beaucoup de gens qui avaient rien d'autre à faire que de me lire et de m'aider. Donc c'était trop bien. Et voilà, ouais. Donc ouais, j'ai commencé par ça. Et ouais, ça s'est structuré pendant le confinement. Mais c'était difficile, hein. J'ai pas travaillé comme une dingue tous les jours. Enfin, je tiens à le dire quand même.
Il y a eu des moments de creux?
Bah non, mais c'était trop bizarre. Le premier confinement, on était paumés. J'avais vachement de mal à me concentrer. Je travaillais très peu par jour. J'attendais le dernier moment pour écrire, quoi. C'était toute la journée. C'était que de la procrastination. C'était l'enfer. Ouais. Mais on était tous... on n'avait pas les idées claires, quoi. Mais petit à petit, ça a pris, ouais.
Est-ce que c'est cathartique d'écrire Super Cyprine? Est-ce que ça canalise la colère d'en faire une œuvre, finalement?
Mais en fait, on m'avait posé la question, j'avais dit non, mais en fait, si, je crois qu'un peu quand même.
Ouais, c'était ma question que j'allais poser. Mais Léda, t'as tout posé, c'est bon.
Ah bah attends.
Ouais, ça m'a un peu calmée. Bon, après, j'ai pas fini d'écrire des histoires comme ça.
Ah mais... bah j'espère.
Mais ouais, ça fait du bien. Moi, je crois que ça fait du bien, en fait, d'exprimer ça. Et en plus, ça reste dans l'imaginaire. Moi, là où je me dis que c'est... Enfin, ouais, c'est de l'imaginaire, c'est dessiné, c'est une BD, et puis c'est pas totalement réaliste, donc... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça très violent, mais pour moi, c'est un monde imaginaire, quoi. Donc, c'est... Ça protège aussi, j'espère, un peu de la violence que ça peut être, quoi. Mmh. Et du coup, c'est pas mal aussi quand... Bon, j'ai pas vécu des trucs horribles, hein, mais je veux dire, quand t'es vénère et que... T'es féministe, tu vois tout ce qui va pas, donc t'es tout le temps vénère. Enfin, et ouais, du coup, c'est cool d'avoir un endroit où tu mets ça et tu joues avec ça et tu vois comment toi-même tu réagis, tu fais réagir ton personnage. C'est intéressant, ça te fait réfléchir aussi à comment tu es toi, quoi.
C'est un double de toi parfois.
Ouais,
Cyprine.
Grave, bien sûr.
Ouais.
Okay. Enfin, sauf que moi, j'ai pas le courage d'aller jusque là où elle va, mais dans la colère et l'obsession de la colère, ouais, c'est carrément, je suis carrément comme ça. Ouais.
Bah merci beaucoup Tess. Je sais pas si Sana avait une ou deux questions.
T'aurais
on va
dû
le
poser
laisser.
Cette question depuis longtemps.
Vas-y, je t'en prie.
Non, je rigole. Sincèrement, ça a été un plaisir d'écouter quand même. Sincèrement, quoi. C'est voilà. Là, je pense le fait d'avoir écouté, j'ai encore mieux compris, quoi. Si je posais plutôt des questions, parce que voilà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, que je comprenais pas. Moi, je savais même pas, quoi. Pour moi, Cyprine, c'était le nom d'une personne réelle, quoi, en fait. Donc, pour moi, au départ aussi, l'histoire, pour moi, c'était une histoire qui était... c'est inspiré d'une histoire vraie, en fait.
Ouais.
Moi, je suis parti de ce constat-là. Mais voilà, vu tes explications, même s'il y a des choses qui sont vraies là-dedans, il y a des choses qui ont été imaginées aussi,
oui,
quoi.
Bien sûr.
Donc, du coup, voilà, moi, juste ma question. toi, en tant que dessinatrice et autrice aussi, le fait d'avoir fait ce livre... Le personnage, est-ce que pour toi-même, est-ce que le personnage, tu penses que t'as... c'est un peu exagéré, je sais pas, est-ce que c'est aller trop loin?
Ah oui, oui.
Ou selon toi, quoi, en fait, moi, c'était ça ma question.
Oui, oui, le but, c'est d'aller loin et de jouer avec ça, justement, et même de voir comment... Moi, je réagis quand il y a une scène de violence que je dois la dessiner. Mmh. C'est clair que c'est pas agréable, quoi. Donc, mais je pense que c'est nécessaire pour poser des questions et pour que les personnes s'interrogent sur ça. Ouais, comme moi, ça m'interroge, en fait. Mais c'est pas forcément une partie de plaisir. Je dois dire que dessiner de la violence, c'est pas ça mon kiff. Voilà.
Non, là, c'est pour une bonne cause. Ouais, ouais. C'est pour une bonne cause, ouais, sincèrement. Ouais, nous, on te soutient beaucoup.
Merci
et
beaucoup.
Voilà, on te dit bravo, quoi. Ouais. On n'arrête pas d'écrire, on continue à écrire, en
et
fait.
Et pour finaliser juste un mot sur Cyprine, la BD, y a pas, on a beaucoup discuté autour de la colère, mais il n'y a pas uniquement ce prisme. Il y a aussi une histoire d'amitié entre Cyprine et Sarah. Donc, il y a une histoire de sororité. Comment est-ce qu'on arrive dans une ville toute seule avec des rêves? Comment on s'émancipe des désirs de ses parents? Et comment est-ce qu'on grandit aussi avec toutes ces émotions en trop plein? Voilà, faut pas réduire ça à la colère. Il y a d'autres messages derrière et de très belles illustrations. Voilà. Alors c'est vrai que je me suis pas attardée sur l'analyse, mais bon, écoute, peut-être qu'il y aura d'autres tomes et que tu reviendras.
Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueillie.
Yes.
Merci Tess.
C'est un plaisir. Merci beaucoup Tess. Et merci également Mélinda.
Merci Sana.
Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain, c'est ça? Non, je suis pas là. Voilà,
non, pas mercredi prochain. Voilà. Attends,
donc mieux vaut qu'on mentionne ça, puisque non
nous,
je suis pas là.
Nous on se revoit mercredi 16 février.
16 février, ouais, c'est bien ça. Donc on se dit mercredi 16 février à 18h30 comme d'habitude. Donc voilà les amis, vous aussi soyez au rendez-vous. Et je pense que la chronique, comme d'habitude, hein, ça vous a plu encore plus aujourd'hui, puisque voilà, c'est Mélinda qui avait l'interview et il y avait l'autrice ici en face. Tu vois, le mot autrice aussi, il faut qu'on dise ça parce que beaucoup de gens ne pensent pas. Pour beaucoup, il faut écrire auteur avec eux. Il y en a qui disent non, c'est autrice et tout. Donc voilà.
C'est un grand débat.
Autrice quand même, voilà, ça existe quoi.
Merci
les amis, vous avez compris.
C'est cool.
Voilà la famille, c'était la chronique de Mélinda en compagnie de l'autrice du BD qu'elle nous a présenté, la Super Cyprine, c'est ça, l'héroïne. Donc voilà, n'hésitez pas, Tess, si on veut te joindre, par exemple, si quelqu'un qui veut acheter ton livre, des trucs comme ça, on fait comment?
Dans pas mal de librairies de Grenoble, les principales de BD, et au Club 66 chez ma pote Anna. Qui a ouvert
et j'ai vu aussi que t'as un site internet.
Oui, exactement, teskinski.com.
Ok, et t'es aussi éditrice. Tu es éditrice aussi de ta propre BD.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est ta maison d'édition
ou
parce que, moi, j'aime les gens qui partent en freelance comme ça parce que, voilà, à un moment donné, il faut se décider, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça.
Ok, et ça s'appelle comment? C'est...
Non, c'est à mon nom, c'est Tess Kinski. Ouais, ouais, okay. J'ai pas créé maison d'édition.
Ok, donc s'il y a un jeune auteur qui nous écoute, par exemple, qui sait pas comment éditer ses livres et tout ça...
Il peut me contacter.
Il peut te contacter pour que tu lui donnes quand même des conseils
ou même
éditer son livre.
Ouais, carrément.
Pas,
voilà. Là, je peux donner plein de conseils.
Yes.
On critique les réseaux sociaux, mais grâce à eux, on fait des rencontres quand même. Instagram, c'est incroyable.
Moi, je ne critique jamais les réseaux sociaux. Parce que je suis tout le temps connecté, donc du coup,
mais
voilà.
C'est vrai.
Voilà. Donc, la famille, j'espère que ça vous a plu. Ben, on va terminer ça en musique. C'est Georgia Smith qui arrive tout de suite. Son titre, Time, montez le son, on est ensemble.